Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Asie vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croient et qui restent pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 20 août 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'Ayatollah Khamenei a su diriger avec succès l'Iran au milieu des sanctions et des séditions. Déclaration du commandant du CGRI, Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, remise de la médaille de la liberté d'honneur de la nation iranienne à une force de service dévouée dans le sanctuaire sacré de Shah Cheragh à Shiraz. Le gouvernement albanais coupe le réseau Internet au camp de groupes terroristes anti-Iran OMK basé près de la capitale Tirana. Et puis Israël va s'effondrer. Le général Soleimani est la première figure antiterroriste de la région. Déclaration du commandant de la force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Dans la chaude soirée du 13 août, un homme travaillant comme force de service dévoué dans le sanctuaire sacré de Shah Cheragh, dans la ville de Shiraz, au centre sud de l'Iran, s'est retrouvé au milieu d'un horrible incident. Malgré un travail difficile et physiquement exigeant, cet homme nommé Farzad Batpin aimait servir les pèlerins qui visitaient le sanctuaire tous les jours. Il aimait particulièrement y travailler car il était un homme religieux avec un amour profond pour la famille du grand prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed. Cette soirée mouvementée, alors que Batpa se déplaçait pour accomplir sa prochaine tâche, pour terminer son quart de travail, il entend des bruits retentissants. Au début, il pense qu'il s'agit des feux d'artifice, mais il se rend compte très vite que quelque chose de bien plus grave est en cours. Il entend des gens crier à l'extérieur. Batpa jette un coup d'œil hors de la zone dans laquelle il se trouve et regarde la cour. Un jeune homme, tenant une arme Kalachnikov, a commencé à tirer au hasard et aveuglément sur les gens. L'une des balles touche une femme et le fait tomber au sol. En regardant tout de loin, Batpa sent quelque chose monter en lui. Il n'a que 34 ans et a commencé son travail il y a 14 mois. Il avait un long chemin à parcourir en tant que responsable du nettoyage. Il n'avait rien dans ses mains pour combattre un terroriste armé. Mais Batpa ne peut pas rester les bras croisés et regarder plus de gens se faire tuer. Sans hésiter, il se précipite vers le tireur et réussit par la force de sa détermination le jeter au sol. Dans un moment de bravoure, il réussit à maîtriser le tireur et à le retenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Son acte d'héroïsme a ainsi sauvé d'innombrables vies et a mis en valeur le véritable esprit d'humanité. Son acte de bravoure a non seulement démontré son attachement indéfectible à ses croyances religieuses, mais a reflété son respect pour sa patrie. Une médaille de la liberté de la nation iranienne a été remise ce samedi à M. Batpa par l'assistant du ministre iranien de la Culture. Le président iranien Ebrahim Raisi a rencontré le diplomate iranien récemment libéré d'une prison belge, le félicitant pour sa patience et sa résilience pendant son séjour illégal en prison. Lors de la rencontre, Ebrahim Raisi a dénoncé l'arrestation du diplomate Assadollah Assadi, la qualifiant de violation sans précédent de l'immunité diplomatique des représentants en mission diplomatique sur le sol étranger. Il a déclaré que les champions autoproclamés des droits de l'homme ont montré une fois de plus qu'ils ne sont engagés à aucune loi. Le diplomate iranien a été arrêté en 2018 en Allemagne, puis transféré en Belgique. Là, il a été condamné à 20 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir joué un rôle dans un complot visant à mener à un prétendu attentat à la bombe lors d'une réunion du groupe terroriste anti-iranien OMK en France. Assadi a nié toutes les accusations. Il a été libéré en mai dernier suite aux efforts diplomatiques de l'Iran. L'Iran affirme que sa condamnation était le résultat d'un complot tramé par Israël et mené par certains services de renseignements occidentaux. L'Albanie resserre l'étau autour du groupe terroriste anti-Iran, l'organisation des Moudjahidin Khalr, ou IMK. Dans le cadre des dernières mesures restrictives, le gouvernement albanais a coupé le réseau Internet au camp de l'OMK, près de la capitale Tirana. Cette décision vise à bloquer les activités terroristes du groupe armé. Il s'agit de la deuxième attaque du gouvernement albanais visant l'unité cybernétique de l'OMK. En juin, les forces de police albanaises sont entrées et ont fouillé le camp de l'OMK, connu sous le nom d'Ashraf III, en raison de son implication dans le terrorisme et les cyberattaques contre des institutions étrangères. Les autorités ont saisi 150 appareils informatiques liés à des activités terroristes appartenant à ce groupe. L'OMK a mené de nombreuses attaques terroristes contre des Iraniens, tuant environ 17 000 personnes. L'Iran a appelé à l'expulsion et au procès des terroristes de l'OMK. Téhéran dit avoir déposé des actes d'accusation contre plus de 100 membres de premier plan de l'OMK. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI, a déclaré avoir averti un porte-hélicoptère américain dans le détroit d'Ormuz, le surprenant au moment de piloter des hélicoptères dans la région. Le commandant des forces navales du CGRI, Ali Reza Tangsiri, a déclaré que le navire américain avait été contraint d'immobiliser les hélicoptères. Tangsiri a déclaré que le navire américain a été contraint de le faire suite à la présence de navires de la marine iranienne et après avoir reçu des avertissements. Il a fait ses commentaires lors d'une réunion des principaux commandants du CGRI où des images de l'incident ont été diffusées. Tangsiri a ajouté que l'incident du 17 août était la première entrée des forces américaines dans le golfe Persique depuis novembre 2021. L'Iran a maintes et maintes fois averti les navires de guerre américains sur les conséquences dangereuses de l'aventurisme de s'approcher de ces eaux dans la région. Téhéran affirme que la présence étrangère dans le golfe Persique est une menace pour la sécurité qui doit être endiguée. Selon le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, l'US Navy ne respectait pas à une certaine période des règles relatives aux voies navigables au sud de l'Iran, mais aujourd'hui, il se voit dans l'obligation de prendre en compte les avertissements de la marine du CGRI. Israël va s'effondrer. Le général Soleimani est la première figure antiterroriste de la région. Déclaration du commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. En allusion au rôle du haut commandant antiterroriste iranien, le général du corps d'armée Rossem Soleimani, dans la consolidation du front de la résistance dans la région stratégique de l'Asie de l'Ouest, le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique a estimé que le régime d'occupation israélien est en déclin. Aujourd'hui, l'axe de la résistance a l'au-dessus sur le régime sioniste, a déclaré le général de brigade Ismail Rahani lors de la 24e Assemblée suprême des commandants du CGRI tenue samedi à Téhéran. Le régime usurpateur est dans une situation difficile, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Ces derniers temps, entre 15 à 30 attaques ont été menées quotidiennement en Cisjordanie par les forces de la résistance contre le régime sioniste, s'est-il félicité. Rahani a également souligné que les États-Unis avaient dépensé 7 000 milliards de dollars en Irak, mais n'avaient obtenu rien d'autre que l'humiliation. Le commandant de la force Quds du CGRI a salué les sacrifices dont a fait preuve le général Soleimani et ses mesures antiterroristes exemplaires dans la région. Enfin, les forces israéliennes ont blessé des dizaines de Palestiniens lors d'un raid sur la ville de Beïta dans la ville cisjordanienne de Naplouse. Selon le Croissant Rouge palestinien, 109 Palestiniens ont été blessés lors des affrontements entre Palestiniens et militaires israéliens. Le raid a eu lieu alors que les forces du régime recherchaient un suspect dans le meurtre de deux Israéliens samedi. Aucun groupe n'a revendiqué l'opération, mais les mouvements de résistance palestiniens, le Hamas et le djihad islamique ont tous deux salué l'opération comme une réponse naturelle aux atrocités d'Israël. Les tensions sont fortes en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes effectuant des raids meurtriers sur les villes palestiniennes. Les Palestiniens ont également mené des opérations de représailles. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'ayatollah Khamenei a su diriger avec succès l'Iran au milieu des sanctions et des séditions. Déclaration du commandant du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, Segeri. Selon le commandant en chef du Segeri, le leader de la révolution islamique d'Iran a géré avec succès le pays au milieu des sanctions économiques et des séditions ces quatre dernières décennies. Le général de division, Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré samedi lors de l'Assemblée suprême des commandants et responsables du CGRI « La gestion et les conseils intelligents et pleins de tact de l'ayatollah Khamenei ont aidé l'Iran islamique à surmonter les sanctions, les menaces, les pressions économiques, les séditions majeures et la guerre des nerfs. » Il a également apprécié la position de leader de la révolution face aux arrogants et aux ennemis. L'ayatollah Khamenei, a-t-il ajouté, a renforcé l'esprit du djihad, combat, effort pour l'amour de Dieu parmi les musulmans du monde entier. À la différence du front de la résistance, les ennemis sont en déclin, a-t-il insisté. Le général Salami a également souligné que les ennemis se sont affaiblis alors que l'Iran et l'axe de la résistance se sont renforcés au cours des 45 dernières années. Aujourd'hui, les États-Unis sont plus en déclin que jamais et l'ennemi est au comble de sa faiblesse, a-t-il déclaré, avant de poursuivre. Israël est également plus faible qu'en 1967, alors que le Hezbollah se révèle plus fort avec des équipements et des outils plus performants. La révolution islamique et l'axe de la résistance ont pris le dessus sur les États-Unis, l'usurpateur qu'est Israël et leurs alliés dans la région. Cela a été possible grâce à la sagesse et au discernement du leader de la révolution islamique, ainsi qu'aux efforts et à la persévérance de l'Oumma islamique. Le commandant en chef du CGRI a également déclaré que l'ayatollah Khamenei avait placé les États-Unis dans une impasse stratégique, arguant que l'ennemi sait qu'il sera vaincu avec ou sans sanctions contre l'Iran. Washington a imposé de sévères sanctions économiques à Téhéran en mai 2018, après son retrait unilatéral de l'accord nucléaire de 2015, également connu sous le nom de Plan Global d'Action Conjoint, PGAC. En réponse à la campagne américaine de pression maximale, la République islamique a adopté la politique de résistance maximale pour surmonter les effets des sanctions illégales par l'autosuffisance. Dans une autre partie de son discours, le général de division Salami a apprécié la brillante performance du CGRI depuis sa création après la révolution islamique de 1979. Dans un discours prononcé jeudi 17 août, l'ayatollah Khamenei a salué le CGRI comme la plus grande force antiterroriste au monde, capable d'accomplir des tâches que de nombreuses grandes armées du monde sont incapables d'accomplir.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le coup d'État au Niger, qui a mis de côté le président pro-occidental, commence à faire du bruit au sein du bloc ouest africain, la CEDEAO, menaçant d'intervention militaire dans ce pays, une intervention directe, donc pour revenir sur le coup d'État. Alors le Mali, le Burkina Faso et même le voisin, le Nigeria, s'opposent fermement à cette intervention, la considérant comme un facteur pour aggraver la situation dans ce pays et créer beaucoup de souffrance pour la population nigérienne. Justement, l'armée nigérienne a également accusé la France de pousser la CEDEAO d'intervention militaire dans ce pays pour retrouver ses intérêts illégitimes en Afrique, perdus bien sûr depuis fort longtemps. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
La coopération économique des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest a fait savoir qu'elle était prête à intervenir militairement si les efforts diplomatiques échouaient à revenir. Sur le coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement du président pro-occidental Mohamed Bazoum le 26 juillet au Niger, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO Abdel Fattah Moussa a accusé les généraux de l'armée nigérienne qui ont accusé Bazoum de jouer au chat et à la souris avec l'organisation ouest-africaine en refusant de rencontrer ses émissaires et de chercher des prétextes pour justifier son coup de force. Ils prétendent qu'ils sont prêts à discuter, mais alors même qu'ils nous disent qu'ils sont prêts à discuter, ils cherchent des raisons pour justifier un coup d'État injustifiable, a-t-il déclaré. Alors que les putschistes ont refusé de rencontrer pour l'instant les émissaires de la CEDEAO. La CEDEAO est prête à répondre à l'appel du devoir et à intervenir militairement au Niger si les efforts diplomatiques pour revenir sur le coup d'État militaire échouent, a-t-il déclaré au chef d'État-major de la défense des États membres. Moussa a cité les déploiements passés de la CEDEAO en Gambie, au Libéria et ailleurs comme exemple de préparation. Si les choses se gâtent, nous irons au Niger avec nos propres contingents et équipements et notre propre ressource pour nous assurer que nous rétablissons l'ordre constitutionnel. Si d'autres partenaires démocratiques veulent nous soutenir, ils sont les bienvenus, a-t-il ajouté. Le voisin du Niger, le Nigeria, a mis en garde contre une intervention militaire, affirmant que cela aggraverait pratiquement la crise et infligerait de nouvelles souffrances aux innocents de la République du Niger et de la région. Le Mali et le Burkina Faso ont déclaré qu'une intervention équivaudrait à leur déclarer la guerre. Dans un communiqué commun publié lundi soir, le Burkina Faso et le Mali ont affirmé qu'une intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch, serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Des milliers de manifestants anti-occidentaux sont descendus dans la rue la semaine dernière pour protester contre les projets de l'Afrique de l'Ouest de déployer une force militaire dans le pays. L'armée nigérienne a accusé l'ancien colonisateur de la nation africaine, la France, d'être la force derrière la détermination de la CEDEAO à restaurer Bazoum au pouvoir pour servir les intérêts de l'Occident.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, des experts de questions internationales, en commençant par Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour et merci.
Bonjour. Bonjour à votre équipe, aux téléspectateurs et à Maître Develet, bien entendu.
Voilà, justement, Maître Arnaud Develet, juriste international et expert de questions internationales. Bonjour, Monsieur Develet.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Luc Michel.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question va s'adresser à Luc Michel depuis Bruxelles. Monsieur Michel, qui pousse la CEDEAO de vouloir intervenir militairement au Niger?
Écoutez, nettement, c'est la France et les alliés de l'Union européenne. Le Niger actuellement, c'est un jeu à trois entre la France, les États-Unis et les Africains. Les Américains ont laissé tomber la France. Ils cherchent pour être d'accord avec la junte nigérienne. Ils ont d'ailleurs donné une ambassadrice à Niamey, ce qui revient à la reconnaissance du nouveau régime. Les Américains ont besoin de leur base militaire pour continuer à contrôler le Libye. La Libye tombée dans le chaos absolu. Ce n'est pas possible à partir de la Méditerranée où la Russie et l'Algérie sont présentes. Il faut donc s'entendre à tout prix avec le Nigeria. Les Américains sont ravis, évidemment, de s'emparer des possessions françaises. La CEDEAO, ce sont les domestiques de Paris et de Bruxelles. Ils sont prêts à risquer un petit guerre à Paris, une guerre pour maintenir la France en position. On doit se souvenir de ce qu'a rapporté la guerre en Libye il y a 10 ans. Ça sera encore pire aujourd'hui. Hier, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé qu'ils déployaient des avions de chasse pour contrer toute tentative d'invasion. Même au sein de la CEDEAO, il n'y a pas d'unité. Le Nigeria, qui est la principale puissance militaire, a en effet un gros problème. C'est que les populations du Nigeria, qu'on appelle la Houssa, les Houssa, c'est la grande communauté de la région, eh bien, elles sont communautés de pays. Dès lors, évidemment, une déstabilisation et une guerre dans le Niger aura des conséquences aux Nigériens dont le régime est déjà fragile. Voilà ce qui se comprend. La France n'a pas compris qu'avec la CEDEAO, elle n'a plus le soutien des Américains et elle a évidemment la détestation de tous les Africains.
Absolument. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Maître Arnaud Develay. Maître Develay, est-ce que vous êtes d'accord avec cette introduction?
Oui, tout à fait. Je pense même d'ailleurs que l'analyse dite ethnographique est souvent mise de côté pour des raisons idéologiques en Occident, plus particulièrement à Paris, malgré le fait qu'il y ait des experts qui étudient les contours ethnographiques de l'Afrique depuis des décennies. Et malheureusement, alors même qu'il semblerait qu'au niveau de l'état-major militaire français, ces analyses soient parfaitement structurées, incorporées dans les évaluations et les notes qui sont produites, au niveau des élites civiles, c'est quelque chose qui passe complètement au travers. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, nous nous retrouvons dans une situation qui voit la France maintenant être sur le point d'être évincée d'un pays supplémentaire, à savoir donc le Niger. Toutes les gesticulations qu'on peut entendre en termes de communiqués, que ce soit des représentants de la CEDEAO ou que ce soit quatre qui se sont échappés de la tutelle occidentale, cachent mal le fait que de toute façon la CEDEAO n'est pas un interlocuteur crédible et que la prise de position des soi-disant putschistes au Niger est partagée par de plus en plus d'Africains dans cette région qui ont décidé et compris surtout que dorénavant il fallait faire preuve de solidarité et, si je puis dire, appeler le bluff de toute intervention militaire en laissant entendre que celle-ci ne sera pas tolérée. Donc je pense qu'on se dirige malheureusement, vers le point de non-retour. On peut penser effectivement que les Américains essayent de jouer habilement en essayant de tracer une forme de contact, de communication privilégiée avec les nouvelles autorités du Niger, en laissant entendre qu'ils pourraient regarder ailleurs en ce qui concerne l'évincement de la France de ce pays. Mais gardons quand même à l'esprit que, en fonction de certains paramètres, les Américains seraient certainement prêts à, pas intervenir directement, mais certainement armer les milices Touareg ou réactiver les groupes djihadistes. On a vu que c'est déjà le cas d'ailleurs ces derniers temps, puisqu'il y a eu des accrochages entre Daesh et les membres du groupe Wagner au Mali. Donc on peut penser qu'on pourrait s'acheminer dans le pire des scénarios vers quelque chose qui s'apparenterait à ce qui s'est passé en Libye, avec une espèce d'alimentation d'un conflit lent, mais qui effectivement verrait certaines vieilles disputes entre les Haoussa et les milices Touareg englober si je puis dire, embraser toute la région. Et là, ce serait une catastrophe.
Oui, tout à fait. Luc Michel, est-ce que vous pensez que la France, qui pousse la CEDEAO d'intervenir militairement dans ce pays, c'est sa dernière carte à jouer à juste titre, ou bien va procéder à nourrir des milices et de commettre des attentats terroristes?
Non, je pense que la France a une fausse perspective qui est celle d'il y a 10 ans en Afrique. Les Français ne comprennent pas leur détestation dans les populations africaines. Ils croient que le sentiment du Français, c'est une construction artificielle de la propagande russe, alors que c'est un tsunami qui est en train d'emporter la France. Dès lors, la France est prête à réussir une guerre classique. On a pris une intervention comme en Libye, mais aussi dans d'autres pays, en Syrie ou en Irak. Ils n'ont pas compris du tout que c'était une politique suicidaire qui sera tolérée ni par le Mali, ni par le Burkina Faso, ni par, bien entendu, l'Algérie. Ce sont les trois poids lourds. Même les Marocains veulent une solution pacifique. Le problème, c'est que l'Élysée est tenue par un président arrogant qui croit qu'il est le maître du monde, le maître des horloges Jupiter, comme il s'appelle lui-même, et qui, en plus de tout cela, n'a plus de compte à rendre puisqu'il est à son dernier mandat et qu'il ne doit pas plaider à sa réélection.
Maître de Velay, je vois que vous confirmez ce que M. Luc Michel a dit. Est-ce que vous voulez bien poursuivre, je vous prie?
Non, Luc Michel a tout dit. Effectivement, on a une élite civile en France, que ce soit au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, qui sont complètement déconnectées des réalités géopolitiques du monde actuel et qui fonctionnent plus en termes d'idéologie avec des constructions qui sont complètement hors sol et ils s'enferment dans ces contradictions internes. Et le problème, effectivement, c'est qu'on a un profil psychologique à l'Élysée qui fait fi de toute réalité et au contraire est entouré de gens qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Donc partant de là, ça ne peut pas mener à une prise de conscience des enjeux et un ajustement en termes de la politique africaine de la France pour peu qu'il en reste une.
Arnaud de Velay, c'est vrai que bon, la France a perdu ses intérêts illégitimes en Afrique, et particulièrement au Mali, au Burkina Faso et maintenant c'est le tour du Niger. Est-ce qu'avec cette intervention militaire, l'éventuelle intervention militaire ou bien des attentats terroristes nourris par la France a une chance de retrouver ses intérêts illégitimes, Arnaud de Velay?
Non, je ne le pense pas. Déjà, militairement, la France n'a pas les moyens de ses ambitions. Tout ça, on le sait très bien. Des analyses ont été faites de l'armée française. C'est une armée mexicaine qui est surtout déployée pour garder les sites sensibles. Que sont en général, par exemple, le port d'Abidjan, on peut penser qui est aux mains de Bolloré, mais une intervention directe militaire contre des groupes disparates ou même des coalitions d'États alimentées, on peut le penser, par un soutien algérien et russe en sous-main, c'est absolument pas pensable. Ce que la France, par contre, est susceptible de faire, c'est d'alimenter par le biais de milices, de proxys, et en jouant sur les ressentiments de certaines composantes des peuplades qui vivent dans cette région du monde, un conflit qui pourrait s'éterniser et transformer effectivement toute la zone en zone absolument... c'est-à-dire que s'ils n'auront pas accès, s'ils n'ont pas accès aux ressources, personne n'aura accès aux ressources. C'est aussi simple que ça.
Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, ce qu'il faut constater, c'est que la France, elle est prise entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est la colère des États et des populations par l'africanisme. Et le marteau, c'est l'impérialisme américain. Les Américains, depuis le discours de 2015 sur les recommandations du Nid, ont décidé de reprendre le contrôle de l'Afrique. En 2006, il y a eu la création de l'Africom. Et l'aboutissement du schéma qui a conduit à ce que la France était le jardin des Occidentaux en Afrique d'Ajaté, c'est le Brexit de Donald Trump. Le Brexit, c'est une opération géopolitique américaine. Elle a une séquelle directe, c'est que les anglo-saxons américains et britanniques veulent s'emparer des positions françaises. En janvier 2010, juste après le Brexit, il y a eu à Londres un sommet Grande-Bretagne-Afrique où on a exprimé brutalement la volonté de s'emparer des marchés français en Afrique. Les Français n'ont pas compris cela. Ils croient encore à l'unité du cran occidental. Ils ont définitivement perdu l'Afrique. Je suis souvent en Afrique, évidemment, et je suis stupéfait de ce qui est en train de devenir la haine de la France et du Français, malheureusement pour eux.
Oui, je pense qu'il était temps, Luc Michel. Arnaud de Velay, ce n'est pas le hasard qui a voulu que le Mali, le Burkina Faso et même le voisin du Niger, à savoir le Nigeria, s'opposent formellement donc à une intervention militaire dans ce pays, car ça va créer certainement beaucoup de souffrance à la population et créer le chaos. Et justement, c'est le hasard que je disais, ce n'est pas le hasard, car ces pays-là ont expulsé récemment toute l'armée française de leur sol. Donc, ils veulent que ça soit la même chose pour le Niger. Que pensez-vous?
Oui, je pense qu'avec le Niger, on arrive à une étape qualitative dans ce processus de reconfiguration de la région du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'effectivement, cet appel à la solidarité en cas d'attaque du Niger par les pays comme le Burkina Faso et le Mali témoigne qu'il y a une prise de conscience que cette fois-ci, il n'y aura pas une forme de, comment dirais-je, d'installation d'une marionnette supplémentaire imposée, que ce soit par les Français ou par leurs supplétifs dans la région. Et que je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que, bien qu'il ait été annoncé par la CDAO qu'une date avait été fixée pour une opération militaire, bien que, et je cite, celle-ci soit gardée secrète pour des raisons stratégiques, dans les pays qui composent la CDAO, cette opération, pour peu qu'elle existe vraiment, doit encore faire l'objet d'une validation par les parlements respectifs de ces pays. Donc on est encore loin de voir une coalition mise en place rapidement se déployer du jour au lendemain. Je pense qu'il va falloir attendre de voir. C'est une question, je pense, aussi de fermeté de la part de ces États qui s'émancipent lentement mais sûrement de la tutelle française, de montrer leur détermination, leur cohésion, leur solidarité. Et je pense que le calcul, quelque part, c'est d'essayer de laisser entendre auprès des pays de la CDAO qu'ils n'ont pas choisi le bon cheval et qu'ils feraient mieux eux-mêmes de commencer à se poser des questions et jouer l'introspection et peut-être recalibrer leur politique étrangère de la même manière que les trois États suspensionnés ont pu le faire depuis un an et demi maintenant.
Absolument. Luc Michel, est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'on est témoin de la fin de l'unité occidentale? Est-ce que c'est bien cette fin qui a permis à certains pays africains, dont le Niger, donc d'arriver justement à expulser l'armée française et se libérer donc demain de l'empire colonialisme?
Non, ce qui a permis cela, c'est le grand retour de la Russie en Afrique à partir de 2015-2017. Les Russes apportent aux Africains le contrepoint champagne qu'ils avaient besoin pour se libérer de la France et de l'Occident. Maintenant, l'hostilité des voisins du Niger et d'intervention militaire, elle se comprend lorsqu'on regarde les cartes géographiques. La géopolitique se répète toujours sur les cartes. Tous les pays y sont en cause. Le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Nigeria surtout ont des frontières communes avec le Niger. Ils ont tiré les leçons de la Libye, ce que n'ont pas fait les Français. Ils savent que la désalinisation de la Libye du golfe de Sète s'est étendue aujourd'hui jusqu'au golfe de Guinée. Et ils ne veulent pas de cela, évidemment, au Sahel.
Absolument. Toujours, Luc Michel, je vous prie. Dans vos propos, dans le débat, justement, vous parlez toujours de la Russie et du rôle de la Russie en Afrique, un rôle positif, selon vous, donc, dans ces pays-là. Est-ce que vous voulez bien évoquer la Russie concernant le Niger?
Écoutez, la Russie a une tradition de soutien à l'Afrique qui ne date pas seulement de l'Union soviétique à la conférence de Bakou en 1922, mais qui date de 1830, du milieu du 19e siècle. À ce moment-là, la cour des tsars de Russie a noué des relations diplomatiques avec l'Éthiopie. Et à la conférence de Berlin en 1865, le fait que le seul État africain qui n'a pas été colonisé, c'est l'Éthiopie, on le doit au soutien de la Russie. La Russie a apporté un contrepoids militaire, diplomatique, économique. Elle a apporté le pouvoir d'une grande puissance. C'est cela qu'il faut retenir dans la paix. Dans le cas du Niger, évidemment, le principal mouvement qui soutient le putsch qu'on appelle le M62, c'est également le principal mouvement pro-russe à Niamey. On a vu à Niamey des manifestations de drapeaux russes qui ont été brandis partout. Lorsqu'a été attaqué l'ambassade de France, c'est le drapeau russe qui a été hissé sur celle-ci. Cela veut tout dire.
D'accord. Monsieur Luc Michel, donc, vous pensez que dans l'avenir, la Russie aura un rôle très important à jouer, pas seulement au Niger, mais en Afrique?
Oui, et d'autant plus que la Russie a une stratégie géopolitique. Le but de la Russie, c'est de créer au Sahel un bloc d'États anti-impérialistes, avec le Burkina Faso, le Mali, et maintenant vraiment c'est possible le Niger. Cela donnerait évidemment un contrepoids à l'influence occidentale en Afrique. Et les Américains sont très conscients de cette menace russe. C'est la raison pour laquelle maintenant, je ne dis pas demain mais aujourd'hui, ils souhaitent s'entendre avec les Nigériens. Mais je pense que les Nigériens doivent comprendre quelque chose. C'est que la France, c'est le ventre mou de l'impérialisme. Mais qui le seront-ils lorsqu'ils auront chassé les bases militaires françaises, mais aussi les Espagnols, les Allemands, les Italiens et surtout les Américains?
Oui. Monsieur Luc Michel, est-ce que est-ce juste de dire que les Africains n'ont pas ce sentiment que, par exemple, la France va disparaître donc de la scène africaine et va être remplacée par la Russie? Ils n'ont pas ce sentiment, n'est-ce pas, Luc Michel?
Ils ne l'avaient pas il y a 7-8 ans. Lorsque j'ai commencé, je vais dire, à prêcher pour l'arrivée des Russes en Afrique, j'étais opposé à des panélistes qui ne comprenaient pas que le principal danger était les États-Unis, pas du tout la France. Mais aujourd'hui, les jeunes panafricains, ils sont conscients du danger américain. J'étais sur un plateau de télévision africain hier soir avec un jeune panafricain de 25 ans, qui est un des leaders, évidemment, du Mali. Eh bien, celui-ci a dénoncé l'emprise américaine sur l'Afrique. Il n'est pas seulement conscient des enjeux géopolitiques.
Un grand merci d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Afrique économie en ce 20 août 2023 depuis la capitale iranienne, Téhéran, et depuis le studio de Presse TV français. Dans cette édition de l'Afrique économie, comme chaque semaine, nous allons passer en revue les évolutions économiques les plus importantes du continent africain. Restez avec nous. Malgré un apport en devise de 3 milliards de dollars d'Afreximbank, les investisseurs de ces eurobonds au Nigeria restent sceptiques. Malgré des signes positifs au T1 2023, l'écart de rendement dépasse 3%. La crédibilité financière du Nigeria est scrutée avec des défis tels que l'inflation et un double taux de change. L'intervention d'Afreximbank soutient les réserves, mais les besoins en devises restent élevés. Les 3 milliards de dollars de ressources en devises fournies par la Banque africaine d'import-export sous forme de prêts à la Société nationale pétrolière du Nigeria ne semblent pas suffire pour rassurer les créanciers ayant investi dans des eurobonds émis par le pays sur le marché international des capitaux. Au mercredi 16 août, l'écart entre les rendements exigés par les investisseurs et le taux d'intérêt initial lors de l'émission demeure élevé, dépassant 3 points de pourcentage. La crédibilité d'un pays sur le marché des capitaux est étroitement liée à sa capacité à disposer des liquidités nécessaires pour honorer ses remboursements. De plus, l'un des critères surveillés par les investisseurs sur les titres d'emprunt émis par des pays africains est la position extérieure, ainsi que tous les éléments pouvant l'affecter. Pour le Nigeria, certains indicateurs sont encourageants. Au premier trimestre 2023, le pays a respecté tous ses engagements relatifs au service de sa dette, malgré un contexte international difficile. Cependant, la coexistence d'un double système de taux de change associé à une inflation en hausse a renforcé la prudence des investisseurs internationaux ciblant les actions des entreprises cotées à la bourse de Lagos et les titres de dette intérieure émis par le gouvernement fédéral. Ainsi, l'intervention d'Afreximbank vise à renforcer les réserves. Mais bien que la holding pétrolière nationale, acteur clé du secteur pétrolier nigérian, soit le principal bénéficiaire, une portion de ses ressources sera dirigée vers les comptes du trésor public. Notons en ce sens que les besoins en devises du gouvernement demeurent considérables, tant pour les dépenses directes que pour les marchés publics. En Côte d'Ivoire, l'exécutif lance la construction d'une riserie à Odienné. La Côte d'Ivoire dépend à hauteur de 60% des importations pour ses besoins en riz blanchi. Avec la croissance de la demande et la facture élevée des achats, des initiatives se multiplient dans le pays pour améliorer l'offre de la denrée sur le marché local. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense, Tene Biramia Ouattara, a donné le 13 août dernier le coup d'envoi des travaux de construction d'une usine de transformation de riz à Odienné dans le nord-ouest du pays. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme gouvernemental d'une durée de 3 ans intitulé « Usine des femmes de Côte d'Ivoire ». D'un coût total de 4,3 milliards de francs CFA, ce programme piloté par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant depuis 2020 vise notamment à développer l'entrepreneuriat féminin en permettant aux associations et groupements de femmes d'acquérir et d'installer des machines pour la transformation semi-industrielle des produits agricoles. Si la durée exacte des travaux de construction, le coût et les capacités de production de la nouvelle usine n'ont pas été révélés, les autorités tablent toutefois sur la création de près de 520 emplois directs et indirects une fois que l'installation sera opérationnelle. Plus largement, il s'agit d'un coup de pouce visant non seulement à accroître la contribution des femmes sur le segment de la transformation du riz, mais aussi à renforcer la capacité de traitement de riz de l'industrie locale. En Côte d'Ivoire, l'exécutif table sur une hausse de 27% de sa production de riz blanchi à 1,4 million de tonnes d'ici la 2023. Gabon, le gouvernement approuve l'extension jusqu'en 2046 des licences d'exploitation pétrolière de Tullow Oil. En mai, Tullow a annoncé vouloir investir 1,4 milliard USD dans le secteur pétrolier gabonais au cours des 4 prochaines années, de quoi accroître sa production dans le pays, estimée à 13 000 barils par jour. La société déclare une production nette d'environ 14 900 barils par jour à partir de ses actifs gabonais en 2022. Tullow Oil a annoncé avoir obtenu l'approbation du gouvernement gabonais pour l'extension de plusieurs de ses licences d'exploitation du pétrole jusqu'en 2046. La compagnie pétro-gazière britannique détient des permis sur 7 champs pétroliers en production et un champ en exploration. Elle affirme que cette extension va lui permettre d'intensifier ses activités dans le pays. Les extensions de licences augmentent la valeur de base de ressources de Tullow grâce à l'ajout d'environ 5 millions de barils de réserves nettes d'EP qui permettront de remplacer 100% des réserves d'EP au Gabon cette année, indique la société dans un communiqué publié sur son site internet. Cette activité s'inscrit dans la stratégie du groupe de se concentrer sur ses actifs de production à haut rendement en Afrique et de libérer de la valeur grâce à l'optimisation de son portefeuille non exploité. Les extensions reflètent le potentiel futur des réserves et des ressources dans l'ensemble des actifs gabonais et la longévité des installations de Tchama en tant que plaque tournante de Tchoulo, ajoute-t-elle. Les activités de Tchoulo Oil dans le pays comprennent l'exploration, le développement et la production. La production au Gabon provient d'un portefeuille de plus de 20 champs offshore et onshore, selon la société. En RDC, le cuivre de Kamoa-Kakula sera exporté via le corridor de Lobito en Angola cette année. Le chemin de fer et le port de Lobito devraient fluidifier les exportations zambiennes et congolaises de cuivre et de cobalt, deux métaux essentiels à la transition énergétique. C'est une alternative plus proche pour les producteurs des deux pays par rapport à Durban en Afrique du Sud. Une partie de la production de concentré de cuivre de la mine congolaise Kamoa-Kakula sera exportée via la port de Lobito en Angola dès cette année. C'est l'annonce faite le 16 août par Ivanhoe Mines, corporateur canadien de la mine, qui précise qu'elle a signé à cet effet un protocole d'accord avec le concessionnaire des infrastructures ferroviaires et portuaires Lobito Atlantique International SARL. Dans le détail, les premières expéditions commenceront au quatrième trimestre 2023 et devraient totaliser jusqu'à 10 000 tonnes de concentré de cuivre. Le corridor est une ligne de chemin de fer longue de 1 739 km et reliant Lobito à Kolwezi en RDC. Cette ligne passe à moins de 5 km du permis Kamoa-Kakula et son utilisation représente une réduction d'environ 50% par rapport à la distance entre la mine et le port sud-africain de Durban. Le corridor de Lobito est la voie d'exportation et d'importation la plus courte et la plus directe entre la ceinture de cuivre et le marché maritime international, ce qui devrait permettre d'accélérer les délais d'exécution et de réduire les coûts, explique Robert Friedland, fondateur et coprésident exécutif d'Ivanhoe Mines. Outre Ivanhoe Mines, notons que d'autres compagnies opérant en RDC, mais aussi en Zambie, devraient bientôt commencer à utiliser cette nouvelle route commerciale. Le négociant de matières premières trafiquera active sur le cuivre et le cobalt en RDC mène d'ailleurs un consortium qui prévoit d'investir 555 millions de dollars dans le corridor. En Afrique du Sud, le démarrage des travaux physiques du pont Tentu, l'un des plus longs et plus hauts d'Afrique. Lancé fin 2017, le chantier s'était heurté à l'opposition des populations riveraines, entraînant la suspension des travaux et l'attribution du marché à une nouvelle coentreprise. SANRAL, l'Agence nationale des routes d'Afrique du Sud, a annoncé le démarrage des travaux physiques du pont Tentu, prévu pour devenir l'un des plus hauts et plus longs d'Afrique. Selon l'architecture prévue, il sera érigé sur une longueur de 1133 mètres et disposera d'une travée principale de 260 mètres et une hauteur maximale d'environ 223 mètres. Les travaux budgétisés à 4,05 milliards de rands seront exécutés sur un délai de 50 mois par la coentreprise constituée de China Communication Construction Company et Mexa Construction. L'infrastructure est une composante des projets structurants du programme N2 Wild Coast Road de SANRAL qui englobe un tronçon routier de 410 km dans la ville de East London jusqu'à la rivière Tamvuna à la frontière entre les provinces du Cap Oriental et du KwaZulu-Natal. En plus de faciliter le franchissement de la rivière Tentu, le pont offrira des avantages en termes de temps et de coût pour le trajet sur la route nationale à péage, la N2 Wild Coast. Il servira de catalyseur pour les opportunités commerciales et le tourisme local.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.